30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Eh bien voilà, c'est la cinquième déjà de 30 minutes chrono. Alors on va faire un petit sommaire de cette émission. Alors on commence toujours par la chronique de la Babale Carrée. Alors cette semaine, notre chronique nous emmènera sur les chantiers de la future Coupe du Monde de la Babale Ronde, celle qui est prévue en 2022. Nous reviendrons aussi sur les conditions de l'attribution de cet événement prestigieux au pays dit le plus riche du monde. Ensuite, je reçois un invité. Alors, bonjour d'abord.
Bonjour.
Alors, cet invité, ce monsieur s'appelle Sébastien Bonin. Il viendra donc pour nous parler de l'école de judo de Montpellier Agglomération et qui se trouve au gymnase Las Cazettes. Je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, oui, juste à côté du collège.
Voilà. Alors, l'occasion pour nous, évidemment, de parler de ce sport phare dans notre patrimoine national, avec évidemment sa méga star, Teddy Riner, le lourd le plus titré de l'histoire de ce sport. On parlera aussi bien sûr des règles, des ceintures, mais surtout de l'éducation sportive par le judo. Enfin, quelques résultats, échéances, quelques mots de nos surdoués de l'agglomération survitaminée. Babale Carrée. Alors cette semaine, dans cette chronique qui se veut un peu dérangeante en dénonçant certains dérives du sport et de ses à côté, j'aimerais revenir dans un premier temps sur les conditions de l'attribution pour 2022 de la Coupe du Monde de football à un minuscule état du Golfe Persique que nous connaissons de plus en plus pour ses investissements pharaoniques dans notre pays. Le PSG en étant la tête de gondole. Le Qatar, dans un deuxième temps, nous irons voir si tout est si rose pour les travailleurs du pays dont le PIB est le premier du monde. En janvier dernier, France Football en a parlé. Il a parlé d'un Qatar-gate mêlant corruption et arrangement concernant l'attribution par la FIFA du Mondial 2022 à ce petit État. En lettres blanches sur fond noir, le journal soulignait que cette désignation dégage une odeur de scandale qui oblige à se poser la seule question qui vaille, ce vote doit-il être annulé? En décembre 2010, le choix du Qatar comme pays organisateur, 14 voix pour sur les 22, contre les États-Unis d'Amérique, avait été accueillie à la surprise générale. Malgré des problèmes liés aux infrastructures et aux conditions météorologiques, sa candidature l'avait emportée. Quelques explications. Disons que le pays le plus riche du monde a peut-être su avoir les arguments nécessaires, l'argent. France Football a étayé ses dires avec du concret, en évoquant des actes de collusion et même de corruption. Le Qatar se serait ainsi appuyé sur les puissants relais, comme le président de la Fédération asiatique, Mohamed bin Hamman, définitivement radié à vie en décembre 2012, le président de la Fédération argentine et vice-président de la FIFA, Julio Grondona, et l'ex-président de la Fédération brésilienne, Ricardo Teixeira. Celui-ci a démissionné en mars du comité de la FIFA et de la CBF sur fond d'accusations de corruption. Un rapport du tribunal arbitral du sport souligne également qu'un certain nombre d'enveloppes, contenant environ 40 000 dollars, c'est pas grand-chose, 29 700 euros en gros, ont été distribuées aux délégués de l'Union caribéenne de football lors d'une réunion organisée à Trinidad et Tobago, c'était en mai 2011. Oui, mais ce n'est pas tout. La France a-t-elle aussi un peu aidé le Qatar pour que le pays obtienne la vitrine de ses rêves? Certains évoquent une réunion secrète au Palais de l'Élysée le 23 novembre 2010, une dizaine de jours avant le vote de la FIFA. Réunion entre le président de la République, Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Michel Platini, président de l'UEFA, et Sébastien Bazin, représentant de Colony Capital, propriétaire du PSG alors. Le PSG en proie à de grosses difficultés financières d'ailleurs. Au cours de cette réunion, il aura été question entre autres du rachat du PSG par les Qataris, de la création d'une chaîne de sport, vous savez, la future chaîne beIN Sport qui va concurrencer Canal+. Sarkozy voulait fragiliser Canal+ pour de multiples raisons. Le tout en échange d'une promesse. Que Platini, président de l'UEFA, ne donne pas sa voix aux États-Unis comme il l'avait envisagé. Bon, affaire à suivre. Voilà pour l'attribution. Mais maintenant, il faut se mettre au travail. Le quotidien britannique The Guardian, daté du jeudi 26 septembre 2013, il y aurait aussi des dégâts collatéraux sur les chantiers des futurs stades. Le Qatar est plein de fric, mais possède un climat un peu, disons, trop chaud pour pousser la baballe pendant 90 minutes en plein été. Alors les travaux de construction des infrastructures sont vraiment dignes des pharaons de l'ancienne Égypte. La planète pourra attendre pour les réductions de dépenses énergétiques. Au Qatar, on va climatiser les stades. Mais avant de profiter d'une agréable fraîcheur, les travailleurs, eux, sont soumis à un rythme de travail que n'auraient pas renié les esclaves venus élever les pyramides. Selon The Guardian, ils sont étrangers, ce sont les immigrés du Qatar. Ils viennent d'Asie avec le mirage qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, enfin, pour eux. Après, ils pourront l'envoyer à leur famille, peut-être. Ils sont 1,5 million, ils viennent aussi de Somalie et de grande partie de l'Afrique. Ils sont donc 1,5 million à avoir fait le voyage. Pour 44 Népalais, le voyage est déjà terminé. Ils sont morts, victimes d'arrêts cardiaques ou d'accidents de chantier. Ils travaillaient 15 heures par jour, sous une chaleur épouvantable. Le thermomètre peut monter jusqu'à près de 50 degrés au cœur de l'été. À leur arrivée, on leur avait confisqué leur passeport, pratique courante au Qatar, pour faire pression sur les immigrés. Les compagnies qui les exploitaient avaient aussi retenu leur salaire, quelques mois, pour être sûr qu'ils ne partiraient pas. En effet, pour ces 44-là, ils ne risquent plus de partir en courant. Pour les autres, le gouvernement qatari a promis d'enquêter. Avec des enveloppes de billets bien distribuées, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre pour cette monstrueuse Coupe du Monde qui, 9 ans avant d'exister, fait déjà partie de l'histoire du sport.
Ah!
Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors, 30 minutes chrono reçoit Sébastien Bonin pour l'école de judo de Montpellier Agglomération. Alors, rebonjour, on s'est déjà salué.
Rebonjour, effectivement.
Mais là, on va parler un peu ensemble. On va pas faire que bonjour. Hein. On va aller un peu plus loin que ça. Hein.
D'accord.
Alors, l'occasion pour nous donc d'évoquer votre sport. Alors, votre sport, c'est le...
C'est le judo, effectivement.
Le judo. Alors, le judo, c'est un sport quand même qui est un petit peu phare en France. On en entend parler peut-être que pendant les Jeux Olympiques ou les grandes compétitions mondiales, mais il y a quand même beaucoup de participants. Vous avez une idée de...
On est à 650 000 licenciés à peu près en France. On doit être quatrième fédération, je crois, à peu près au niveau national. Donc c'est une très forte fédération, effectivement.
C'est très important. Et puis, c'est, comme je dis, c'est une vitrine pour la France, puisque ça fait partie des sports qui nous ramènent beaucoup de satisfaction, que ce soit aux Mondiaux ou aux Jeux Olympiques.
Oui, effectivement. En général, aux Jeux Olympiques, ça fait partie des sports qui sortent bien. Et là, dernièrement, on a eu les championnats du monde à Rio, avec une équipe féminine un petit peu en dessous de ses résultats habituels. Mais par contre,
certaines qui prennent leur retraite aussi, je crois. Hein.
C'était la fin. Lucie Decosse, ouais. Qui arrête notamment, qui a été une grande championne, qui est une grande championne et a eu de nombreux titres. Mais le relais a été pris là par les garçons et qui, pour la première fois, passe devant les féminines sur les résultats.
Voilà. Et puis, donc, non seulement il passe devant la féminine, mais c'est aussi, je pense, le pays qui concurrence le plus, le Japon.
Oui, effectivement, il y a le Brésil, la Russie qui commence à monter en puissance, mais la France reste une place forte depuis plusieurs années, effectivement.
Et puis après, on a ce monstre sacré, Teddy Riner.
Ouais, Teddy, ouais, c'est quand même un cas exceptionnel.
C'est exceptionnel parce qu'il a été champion du monde à 18 ans, à Rio d'ailleurs, si je me crois, la première victoire à Rio. Et là, il retourne à Rio et il est champion du monde pour la...
Sixième fois.
Sixième titre, et il est encore jeune.
Ouais. Oui, il doit avoir 22 ans, je crois, un truc comme ça.
Mon Dieu, c'est impressionnant. Bon, là, on ne va pas parler que des grands champions, bien entendu. Là, c'était juste une petite introduction. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous poser quelques questions un peu pour les nuls. Hein, pour les nuls, ceux qui ne connaissent pas ce sport. Hein. Alors, les ceintures, on sait que ça part de la blanche au noir. Mais alors, comment ça évolue? Dites-moi un peu les couleurs, si c'est possible.
Alors,
si ça ne vous embête pas. Hein.
Non, ça ne m'embête pas, bien sûr. Donc, il y a plusieurs ceintures. Maintenant, il y a des ceintures bicolores. Avant, il n'y avait que les ceintures blanches, jaunes, oranges, vertes.
Ça, c'est du tout le temps où j'étais jeune.
Voilà, c'était ça. Ouais. Et maintenant, il y a des ceintures bicolores. Donc, on est à blanche, jaune, orange, pour permettre que tous les ans, les enfants puissent avoir une progression. On a déjà des âges planchers, donc à 6 ans, quand ils débutent, ils sont ceinture blanche, et puis ensuite, ils passent blanche-jaune à 7, jaune à 8, etc. Et puis maintenant, on a même les ceintures pour les 4 et 5 ans, qui ont un petit liseré jaune à 5 ans et deux liserés jaunes à la fin de leur deuxième année de baby judo.
Alors, comme on parle de jeunes, donc le judo, c'est un sport quand même d'insertion dans la société. C'est un sport aussi de respect des autres, je pense. Alors, en tant qu'éducateur, vous recevez donc des enfants, vous m'avez dit, si jeunes, hein, ça commence vraiment...
Ah oui, on commence à partir de 4 ans, effectivement. Ouais.
Et je suppose que ça se passe chez vous le mercredi ou le samedi, ça doit être...
Alors, on a le mercredi, on a fait le choix volontairement de ne pas faire le samedi parce qu'on a beaucoup de compétiteurs et qu'il faut les suivre. Mmh. Donc, c'est difficile de se dédoubler. Par contre, on a effectivement le mercredi qui est la grosse journée, le vendredi soir, plus des créneaux avec la classe sportive là, du collège Lascaz le lundi et le jeudi.
Alors, pour les babies, c'est de 16h à 16h45, si je ne me trompe pas en lisant
votre... Oui, c'est ça, il n'y a pas de changement.
Voilà, pas de changement. Donc, pour s'inscrire à ces écoles de judo, est-ce que c'est encore possible?
Ah oui, c'est tout à fait possible. On est en pleine rentrée. On a encore des gens qui s'inscrivent régulièrement toutes les semaines, à chaque cours. J'ai encore des appels régulièrement pour venir. Donc, en général, au mois de septembre, les gens essaient les activités, se mettent dans la rentrée, puis au fur et à mesure, commencent à venir sur les clubs. Donc oui, bien sûr, ils peuvent venir toujours.
Et on peut débuter même si on n'a pas 4 ou 5 ans. Je suppose que quand même quelqu'un qui a une dizaine d'années peut commencer le judo.
Ouais, 10 ans, mais même encore plus. Oui. Il y a deux jours, j'ai eu un appel d'une jeune femme de 23 ans. J'ai des parents d'élèves d'une quarantaine d'années qui démarrent le judo. Voilà, tout le monde peut démarrer.
Tout le monde peut démarrer. C'est donc très bien pour vous contacter. Donc, on vous contacte au collège Lascazes ou sur votre téléphone?
Alors, directement sur le numéro de téléphone.
Ah bah, je vais le donner. Alors, voilà, c'est Sébastien Bonin et le téléphone, c'est le 06 40 05 91 03. 06 40 05 91 03. Donc, on va revenir un peu aux règles aussi. Alors, un combat, ça dure combien de temps? Parce que c'est très violent, un combat. Très violent, je veux dire, pas dans la violence, mais dans le côté physique.
Alors oui, effectivement. Donc, un combat dure 5 minutes en temps effectif. Mais avec les pauses, on est sur du 8 minutes à peu près avec les matés, donc les temps de pause. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de qualité physique au-delà de tout le travail technique qu'on fait plus jeune. Après, il faut beaucoup d'entraînement physiquement, musculairement, au niveau cardiaque. Il faut être au top pour pouvoir tenir. Ouais.
Oui, c'est un sport, on n'a pas forcément cette impression-là quand on est un profane, hein, mais c'est un sport explosif, hein, on peut dire. Hein.
Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. L'entraînement d'ailleurs se base sur beaucoup de petites séquences. Extrêmement séquencé avec les matés effectivement qui arrêtent. Donc on est sur des séquences de 20-30 secondes et où à chaque fois il faut essayer de marquer. Il faut être.
Donc les deux judokas doivent porter des attaques. Et après il y a tout un système de notation, on peut dire, de si ça compte, qui compte pas. Parce que là, quand on est profane, des fois on voit un match de judo et on comprend pas tout. Mais on a compris que le mieux c'est le hippon, hein, c'est ça.
Voilà. Donc c'est en fonction des impacts en fait. Donc le hippon c'est quand on tombe à plat dos avec de la force, de la vitesse, que tout est contrôlé. Donc là c'est vraiment l'impact total. Et après il y a différentes valeurs, le yuko qui est sur le côté quand on tombe sur la tranche et le wazari qui est un peu entre les deux, entre le hippon et le yuko.
Et puis il y a les immobilisations aussi, je crois.
Alors il y a tout le travail en newaza, le sol, donc le newaza comme on appelle en japonais, avec les immobilisations, les clés de bras et les étranglements, tout le travail de soumission effectivement aussi.
Voilà. Alors c'est un sport qui vous permet aussi de recevoir peut-être des jeunes dans ce collège qui ont besoin d'avoir une structure qui les entoure, qui les aide.
Effectivement, là, on a mis en place depuis 3 ans un partenariat avec le Collège Ascaz, avec Supagro, la Ligue Languedoc-Roussillon également. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le gymnase du collège qui est utilisé également donc, par le collège, par Supagro, et où on permet, dans ce dispositif, on a réussi à avoir des financements pour pouvoir aider les jeunes du quartier. On reçoit beaucoup de jeunes du quartier Cévennes et Petit Bar, et finalement, eux ne payent que leur licence, on leur offre des kimonos et puis ils ont jusqu'à 4 créneaux par semaine et ça leur permet dès l'entrée en 6e de venir et de pratiquer. Et là j'ai ma première génération qui commence à être ceinture marron, qui ont commencé en 6e et peut-être les premières ceintures noires. Et tout ça c'est relayé avec un travail que je fais soit avec de l'accompagnement éducatif, soit directement en intervenant dans les écoles sur le temps scolaire avec toutes les écoles. Sur Petit Bar, sur l'école Baudelaire qui est juste à côté du collège Ascaz, on fait tout un travail de réseau, d'initiation pour essayer d'amener tous les jeunes vers le judo au maximum et leur faire découvrir cette activité.
Et comment vous êtes perçu par ces jeunes au début? Pour eux, le judo, ils doivent voir ça un peu d'une façon étrange, c'est un sport de combat, mais après, leur apprendre toutes ces règles, que ça doit être tout un mécanisme qui se met en place pour eux et qui leur permet peut-être d'avoir une vision individuelle, mais aussi collective de ce sport.
Justement, maintenant, on est dans la transmission. Le plus dur, ça a été la première année parce qu'effectivement, j'avais que des débutants. Donc, je m'appuyais, comme j'avais des judokas d'un autre club où j'intervenais. Je me suis appuyé sur quelques anciens, un ou deux anciens au début pour les aider. Et puis maintenant, quelques années après, les petits qui rentrent en 6e, déjà, je les ai peut-être eus en CM2, en CM1 sur les initiations. Et surtout, quand ils rentrent au collège, ils ont des grands collégiens on n'aurait pas cru il y a 4 ans, mais qui maintenant les prennent en main, d'où tout le côté collectif effectivement, et qui les voilà, ils savent que quand ils montent sur le tapis ils doivent le respect et les règles, j'ai même plus besoin de les rappeler, ça se fait naturellement maintenant, la transmission elle se fait d'année en année et ça c'est une grande réussite.
C'est le sport de combat, mais le sport de combat est bien encadré on peut dire, hein, c'est ça, hein, c'est pas...
Il faut s'il n'y a pas de respect en judo on n'arrive pas à avancer. Il faut effectivement, c'est un sport collectif parce que si on n'a pas de partenaire en face, on n'arrive pas à avancer.
Voilà. Et puis vous représentez aussi, je suppose, des équipes. Vous avez fait des championnats, des choses comme ça, par équipe.
Oui, on a des championnats par équipe. L'an dernier, on a été champions régionaux chez les juniors. On est monté au championnat de France. Ça s'est pas très bien passé, mais bon, on est monté au championnat de France.
C'est déjà pas mal.
C'était une première. C'était une première pour le club et puis pour moi en tant qu'entraîneur. Donc c'est très bien. Donc on va essayer de défendre notre titre dans un mois. Et puis surtout, effectivement, on va avoir notre première équipe cadette féminine, issue que du collège d'Ascaz, justement, que des féminines qu'on a eues au collège et qui ont débuté avec moi il y a 3 ans. Et en espérant avoir des bons résultats, puisqu'on en a déjà qui tournent bien.
Et c'est ce que s'appelle la classe sportive judo, c'est ça ?
C'est une classe sportive judo. Donc en fait, on a les deux créneaux club. Et ensuite, ils ont le lundi et le jeudi où, en sortant du collège, ils viennent nous rejoindre au gymnase directement. Et ils ont un créneau. C'est un partenariat qu'on a avec le collège. Et puis, effectivement, je parlais de Supagro tout à l'heure, qu'on accueille le mercredi soir. C'est tous les étudiants donc de cette grande école. Et donc, il y a un échange qui se fait, effectivement, entre ces étudiants et ces collégiens. Et il y a aussi de la mixité qui se fait. Il y a de l'échange et on voit les collégiens aider les débutants de Supagro et vice-versa. Donc, c'est très bien. Ça aussi, c'est une réussite.
Vous êtes aidé, je suppose, par le département, par la région par...
Alors en fait, moi je suis employé par la Ligue Languedoc-Roussillon de judo.
D'accord.
En partie. Donc y a une aide. Mon emploi, c'est un emploi aidé, un EFUS, un emploi à forte utilité sociale. Donc voilà, c'est les aides qu'on a. On a quelques aides. On a la Fondation Auchan qui nous aide aussi également sur ce type d'action. Mmh. Voilà, plus jeunesse et sport sur l'emploi aidé.
Est-ce qu'il y a-t-il des voyages des fois je veux dire, des voyages pas très très lointains. Je sais que le judo est particulièrement bien pratiqué dans les anciens, les républiques soviétiques, mais disons d'Azerbaïdjan, du Caucase. Hein, mais ça, vous pouvez pas les emmener là-bas.
Pour l'instant, non, pas encore. On voyage déjà pour certains, notamment sur le quartier. Pour certains, je les ai emmenés l'an dernier à Montarno pour aller faire un footing.
C'est déjà extraordinaire.
C'était déjà quand ils ont vu les vignes, et un peu de colline, c'était déjà exceptionnel pour eux. Non, mais on organise des déplacements. On a fini l'année dans les Alpes avec une sortie rafting. Voilà. On essaie de déplacer. Puis plus ça va aller, plus on va organiser des choses. On a des projets. On a plein de projets. Il y a l'Espagne qui est pas loin. Il y a l'Italie. Et puis, on a beaucoup d'enfants qui viennent du Maroc. Et on aimerait peut-être aussi aller là-bas faire quelque chose avec eux.
Eh bien, écoutez, plein de projets. D'abord, on va se quitter un petit moment pour une petite pause musicale, puis après on revient pour reprendre juste après la pause musicale. On aura le temps encore de se dire quelques mots.
D'accord.
Le lancer du CD.
Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line.
Alors, on parle un peu d'une révolution avec Tracy Chapman. Tracy Chapman, c'est vous qui l'avez choisi. Vous aimez bien ce type de musique?
Ouais, ça fait partie des artistes que j'aime bien entendre, effectivement. Ouais.
Ah, une artiste états-unienne qui est dans la grande tradition du folk song, hein, et de la musique protestataire des ouais. États-Unis d'Amérique.
Oui.
Alors, on reparle avec Sébastien Bonin du judo et puis de l'organisation d'un grand événement.
Ben effectivement, oui, on va avoir en avril, du 24 au 27 avril, les championnats d'Europe à l'Arena. Donc déjà, on a eu une grande première au mois de novembre de l'année dernière, puisqu'on a reçu le championnat de France première division, qui a été un grand succès sur 2 jours. C'était c'est une première donc sur Montpellier. Et puis là, pour la première fois, on va recevoir les championnats d'Europe et on va être. Ça a toujours été Paris. Dans les années 70, ça a été Lyon. Et pour la première fois, donc, ça va être Montpellier. C'est la deuxième ville délocalisée à part Paris pour recevoir les championnats d'Europe. Ça a été un gros événement, plus de 600 judokas. Et on espère une belle fête.
Et les dates, rappelez-moi ?
Du 24 au 27 avril 2014 à l'Arena de Montpellier.
D'accord, à l'Arena, magnifique salle.
Oui, oui, oui.
Pour le sport, formidable. Hein.
Oui, oui, on a déjà fait l'expérience sur le championnat de France. Ça a été un grand succès. Et la salle, effectivement, ça donnait quelque chose de bien.
Alors, merci Sébastien Bonin.
Quelques résultats de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé.
Alors, on va faire court, hein. Mais enfin, je vais surtout parler de, plutôt que de, des résultats, des échéances. Alors, on va parler des trois grands sports montpelliérains rapidement. On sait que samedi, Montpellier va recevoir Oyonnax en rugby, c'est à Dumanoir, et ça sera à 18h30, c'est-à-dire, ça sera un petit peu avant cette émission, puisque cette émission commence à 19h30. Donc si vous êtes à Montpellier en rugby, ben vous saurez presque le résultat au moment où cette émission passera. Dimanche, Lyon va venir à Montpellier à la Mosson, donc ça c'est du foot, vous en doutez bien. Quant au Montpellier handball, ben, il aura fort à faire, puisque dimanche aussi, il va se rendre au PSG, du Qatari, bien sûr, dont nous avons parlé tout à l'heure, car les Qataris ne se contentent pas du football, ils commencent à investir un peu partout, et notamment dans le handball. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire très très rapidement ? Ben, écoute, les filles du football féminin, j'aime bien en parler, ben, elles seront à la Mosson aussi, et elles vont aussi recevoir le PSG des Qataris. Vous voyez que ça n'arrête pas, on en revient toujours à eux. Nos vipères, ce sont les hockeyeurs, que j'espère d'ailleurs recevoir un de leurs représentants bientôt. Et ben, nos vipères, quatrième actuellement du championnat, ben, ils accueillent Neuilly-sur-Marne le samedi aussi, à partir de 19h30, donc à la patinoire, vous y êtes peut-être. Le waterpolo, qui est vice-champion de France, je vous rappelle, champion de France l'année précédente, va essayer de commencer pour la reconquête du titre. Et samedi, à Antigone, ben, il sera face à Senlis à 20h30. Le basket, nos basketteuses, vous savez, elles aussi très très fortes, nos basketteuses du BLMA, elles débutent le championnat dimanche face à Nice. Et puis bon, je pourrais vous parler d'un sport qui est moins médiatisé avant de conclure, c'est le polo. Le polo, vous savez, il y a des chevaux, puis il y a une balle avec une sorte de canne. Et bien, la finale nationale Grand Sud Polo Tour. C'est une autre ellipse d'ailleurs, c'est à San Marco Polo Club, chemin de Saint-Marcel-le-Neuf, et c'est à Moggio. Et ben voilà, ce 30 minutes chrono est terminé, jusqu'à la semaine prochaine. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.